Migration locale et internationale avec Elisabeth Longuenès et Jean-Claude Samouillé.
Bonsoir. Donc moi je suis Elisabeth Longuenès, pour me présenter rapidement. Je suis en fait universitaire, chercheur, sociologue et spécialiste du Proche-Orient. Et donc je suis aussi membre du comité de rédaction de la revue Confluence Méditerranée. Donc je vais faire de la publicité pour la revue. Malheureusement, je ne crois pas qu'il y en ait dans les librairies du salon. La revue Confluence Méditerranée est une revue qui travaille sur, qui fait des publications sur ce qui se passe en Méditerranée Nord-Sud, et mais beaucoup sur le monde arabe. Et j'ai édité un numéro sur le Liban l'année dernière, en 2015, et il y a un numéro sur la Syrie là qui vient de sortir. Je suis aussi par ailleurs, et je voudrais dire un mot de ça, membre d'une association qui s'appelle Alouane et qui est à Lyon. Et qui s'occupe d'organiser des soirées, des événements et de recueillir des souscriptions, donc pour recueillir de l'argent pour envoyer en Syrie à un réseau de la société civile. Donc il y a beaucoup d'organisations de la société civile, on pourra éventuellement y revenir dans le débat si ça vous intéresse ou après, qui aident les déplacés à l'intérieur de la Syrie. Et nous, donc l'association Alouane soutient des projets de scolarisation d'enfants, de familles déplacées. Voilà, donc peut-être je laisse la parole à Jean-Claude Samouillé pour qu'il se présente et ensuite je reviendrai.
Donc moi je suis Jean-Claude Samouillé, membre de la commission Personnes déracinées à Amnesty International France. Amnesty International donc est une grosse ONG, si on peut dire, de défense des droits de l'homme, hein, puisqu'on revendique 7 millions de membres dans le monde. Et l'une des missions d'Amnesty International, c'est tout un travail sur le droit d'asile, sur les réfugiés, sur les demandeurs d'asile et sur les migrants dans un sens plus large. Depuis début octobre 2016 a démarré une campagne mondiale donc de toutes les sections d'Amnesty de par le monde. Cette campagne, c'est I Welcome, qui a pour but de préconiser de faire pression auprès de nos gouvernements pour le partage des responsabilités, pour instaurer un partage de responsabilités au niveau de la crise des réfugiés que nous connaissons depuis disons 3 ou 4 ans.
Bon, donc moi, je vais vous parler de ce qui se passe dans la région Proche-Orient autour de la Syrie. Donc du cas des déplacements de population au sens large provoqués par la situation en Syrie, par les bombardements subis par la population, la répression du régime et la guerre tous azimuts qui s'est développée ces dernières années. Donc la première remarque générale, c'est que je pense qu'il faut toujours dire et redire que le plus grand nombre de déplacés et de réfugiés n'est pas en Europe, mais dans les pays limitrophes de là où se produisent des guerres ou des événements, et dans les pays eux-mêmes et dans les pays limitrophes, et en particulier les deux régions du monde où il y a le plus de réfugiés, mais je crois que Jean-Claude Samouillé sera plus précis que moi là-dessus, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc l'autre remarque que je voudrais faire, c'est que le titre général de la conférence, c'est « Migration locale et internationale ». La notion de migration est un terme générique, de migration et migrant est un terme générique. Et il faut distinguer évidemment, même si c'est pas toujours facile, hein, plusieurs catégories de migrants. Et moi, ceux dont je parle, ce sont des gens qui sont déplacés, qui se déplacent, qui sont forcés par les événements, par la guerre, par la répression, de se déplacer. Ce sont pas des migrants économiques. C'est ceux qu'on englobe en général dans la catégorie réfugiés. Mais sachant que c'est pas il y a deux termes en fait utilisés par les organisations qui s'intéressent aux réfugiés, par le Haut Commissariat aux réfugiés en particulier. Il y a la notion de déplacés, ce sont les déplacés internes, et les réfugiés, c'est quand ils ont franchi une frontière. Donc pour la Syrie, il y a donc énormément de réfugiés, de déplacés à l'intérieur de la Syrie, et après, enfin les gens qui fuient les bombardements commencent par chercher refuge chez des voisins, dans le village d'à côté, dans la ville d'à côté ou un peu plus loin. Et ensuite, ils vont dans les pays voisins. Donc le plus grand nombre de réfugiés est au Liban, en Turquie et en Jordanie. Il y en a aussi en Irak. Il y a des réfugiés syriens en Irak, surtout dans le nord, au Kurdistan. Il y en a en Égypte, il y en a en Afrique du Nord. Donc il y en a vraiment beaucoup ailleurs. Et donc je vais commencer par quelques chiffres. La guerre et la violence en Syrie a produit un nombre très grand de blessés, de tués et d'handicapés et de gens en difficulté. Les chiffres de Médecins Sans Frontières en décembre 2015, donc il y a déjà plus d'un an, donc il faut se dire qu'ils sont déplacés, c'était 1 million de blessés, 250 000 tués et 1,1 million de personnes qui ont besoin de soins médicaux et qui n'arrivent pas à y accéder. Les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, donc organisme de l'ONU, en janvier 2017, c'est 6,3 millions de déplacés internes pour une population de 22 millions d'habitants, sachant que c'est un chiffre minimum, parce que c'est difficile de compter évidemment précisément ce qui se passe en Syrie. Donc 6,3 millions de déplacés internes pour 22 millions d'habitants. Il faut réaliser à quel point c'est énorme. Et près de 5 millions de réfugiés, en fait, là aussi, probablement plus. Comment se répartissent ces réfugiés ? En Turquie, 3 millions, selon aussi une estimation du HCR, pour un pays de 80 millions d'habitants. Mais ils ne sont pas également répartis sur le territoire de la Turquie, bien sûr. Il y en a 500 000, un demi-million à Istanbul, et le reste se répartit essentiellement le long de la frontière avec un gros pôle à Gaziantep, qui est une ville qui est proche de la frontière syro-turque, de l'autre côté de la frontière par rapport à la ville d'Alep. Donc à Gaziantep, qui est une ville de 1,5 million d'habitants, il y a 300 000 réfugiés ou déplacés syriens. Au Liban, il y en a 1 million, selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. J'insiste toujours là-dessus parce que, en fait, les chiffres réels sont la plupart du temps nettement supérieurs pour un pays dont la population est estimée à environ 4 millions d'habitants. Donc 1 million de réfugiés, au moins, peut-être 1 million et demi pour 4 millions d'habitants. Et là aussi, ils ne sont pas inégalement répartis sur le territoire. Ils sont concentrés, le plus grand nombre est concentré dans la plaine orientale, la plaine de la Bekaa, et dans le nord, qui sont les deux régions les plus pauvres du Liban. Il y a des endroits où il y a deux fois plus de réfugiés syriens que de population, hein, dans certains villages ou certaines communes. En Jordanie, ils sont 656 000. Et on peut donc aussi ajouter en Irak, ils sont plus de 200 000. En Égypte, ils sont plus de 100 000. Donc, dans les pays de la région, ils sont 5 millions. Et en Europe, pour donner un terme de comparaison, il y a, depuis 2011, il y a eu 885 000 demandes d'asile de Syriens, dont les deux tiers en Allemagne et en Suède. Donc pour toute l'Europe, 1 million, pour la région, 5 millions, pour 3 millions en Turquie, 1 million au Liban, etc. Tout ça pour vous donner donc des éléments de mise en perspective. Ça, c'est pour les chiffres. Maintenant, quelle est la réalité juridique et sociale ? D'abord, il faut avoir en tête aussi une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que la Convention de Genève, qui réglemente au niveau international les obligations des États d'accueil des demandeurs d'asile. La Convention de Genève a été signée par les pays européens, les grands pays occidentaux. Elle n'a été signée ni par le Liban, ni par la Jordanie. Elle a été signée par la Turquie avec une restriction aux pays européens. Ce qui veut dire que les trois pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés sont précisément ceux qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Alors pourquoi ne sont-ils pas signataires de la Convention de Genève ? Pour le Liban et la Jordanie, la raison est très claire, c'est qu'ils ont accueilli depuis... Alors maintenant, ça fait plus de 50 ans, mais ils ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés palestiniens, avec évidemment des conséquences diverses et complexes, plus particulièrement au Liban. La gestion des réfugiés palestiniens au Liban, la situation des réfugiés palestiniens est particulièrement difficile au Liban et pose des problèmes politiques liés au système politique libanais. Et donc les Libanais, comme les Jordaniens, estiment qu'ils ont en quelque sorte eu leur part de réfugiés et qu'ils n'ont pas donc de raison de payer plus que ça. Ceci dit, ils ont accueilli de fait énormément de réfugiés irakiens dans les années 90 et 2000, surtout la Jordanie, pas tellement le Liban, et la Syrie a accueilli jusqu'à 1,5 million de réfugiés irakiens. Donc tout ça c'est des données importantes, mais quand on reproche aux pays de la région aujourd'hui de fermer leurs frontières et de ne pas remplir leurs devoirs ou leurs obligations vis-à-vis des réfugiés, je pense que c'est un peu hypocrite de la part des pays occidentaux qui, eux, sont signataires et aujourd'hui bloquent l'arrivée des réfugiés. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de réglementation et d'instances qui gèrent les réfugiés hein, dans ces pays. Alors, pardon, pour la Turquie, c'est pour des raisons un peu différentes. La Turquie a signé, ne veut pas se considérer comme responsable des problèmes du Moyen-Orient, a signé la Convention de Genève pour les réfugiés européens et a accueilli et a géré des réfugiés de la guerre des Balkans. Mais officiellement, ils ne reconnaissent donc que les réfugiés des Balkans et ils ne reconnaissent pas. Dans la pratique, ils en accueillent. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de, structure, il n'y a pas d'administration qui prenne en charge les réfugiés. D'où l'importance du rôle du HCR. Donc c'est le Haut Commissariat aux réfugiés qui, dans ces différents pays, est censé apporter une aide aux réfugiés. Alors, la politique des États, donc des trois États dont je vais parler, est différente d'un pays à l'autre. En Turquie et en Jordanie, dès le début, ont été installés des camps. Et la Jordanie comme la Turquie ont essayé, mais ça n'a pas duré longtemps, de cantonner les réfugiés aux camps installés à la frontière. Lesquels camps ont été installés avec l'aide du Haut Commissariat aux réfugiés. Le Liban a refusé d'installer officiellement des camps parce que le Liban estime que les Palestiniens qui étaient censés ne pas rester sont restés et le Liban ne veut pas reproduire la situation palestinienne. C'est en tout cas la position officielle. La raison officieuse, c'est aussi que le gouvernement libanais et la classe politique libanaise est extrêmement divisée, à la fois en interne et surtout donc en lien pour ce qui concerne la politique à l'égard de la Syrie, puisqu'une partie de la classe politique, tant au Parlement qu'au gouvernement, soutient le régime d'Assad et qu'une autre partie est hostile au régime d'Assad. Donc ça explique qu'ils auraient voulu rester le plus possible à l'écart tant de la question syrienne que de la question des réfugiés. Ceci dit, dans la pratique, ça ne change pas énormément de choses parce que tant en Turquie qu'en Jordanie, la proportion des réfugiés qui sont dans les camps est relativement faible. C'est entre 10 et 20%. Donc les réfugiés s'installent comme ils peuvent un peu partout, en ville, dans les différentes villes ou dans les villages au Liban. Et en Turquie, alors il y a une différence avec la Turquie sur laquelle je reviendrai. Et de fait, donc, il y a une gestion informelle, en fait, de la présence de ces réfugiés, plus ou moins bien accueillis par la population. Donc, soit ils louent des terrains au Liban, ils louent des terrains, par exemple, aux agriculteurs, et avec l'aide des ONG et aussi du HCR, ils installent des tentes, donc sur des terrains loués. Donc, et ils payent, ce sont les réfugiés qui payent donc un loyer aux propriétaires qui leur louent des terrains. Et sinon, ils s'installent en s'entassant dans des immeubles pas terminés ou dans des immeubles d'un peu meilleure qualité quand ils ont un peu de moyens. Donc tout dépend des moyens dont ils disposent. Et tout ça se passe entre la population et les réfugiés. Et c'est un peu la même chose. Et c'est la même chose en Jordanie. Alors en Turquie, aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que il y a la Turquie a depuis 2015 institué un statut d'accueil temporaire pour les réfugiés et de fait les réfugiés ont par exemple le droit au travail en Turquie alors qu'officiellement ils n'ont pas droit au travail en Jordanie et au Liban. En réalité, ils travaillent quand même. Mais ça veut dire qu'ils travaillent au noir, donc dans les conditions précaires qu'on peut imaginer. Dernier point, avant de revenir sur ces questions sociales, donc les trois pays ont laissé passer en fait les réfugiés à travers leurs frontières, avec des hauts et des bas, mais Donc les trois pays ont laissé passer les réfugiés. Au Liban, il y avait déjà, antérieurement à 2011, 300 000 travailleurs syriens donc, qui travaillaient au Liban, qui faisaient des allées et venues, mais qui étaient plus ou moins installés au Liban. En Jordanie, il y avait 150 000 aussi à 200 000 travailleurs syriens. En Turquie, il y avait entre Alep et Gaziantep et la frontière énormément de relations commerciales et donc de relations aussi de voisinage. Donc les passages étaient relativement faciles et les gens ont été accueillis par déjà des familles qui connaissaient ou par leurs cousins ou etc. etc. Aujourd'hui, les frontières sont fermées dans les trois pays. Elle est hermétiquement fermée en Jordanie, de sorte qu'on a aujourd'hui 75 000, je crois, réfugiés qui sont déplacés, pour le coup, qui sont bloqués à l'intérieur de la Syrie, à la frontière syro-jordanienne, et auxquels les ONG ne peuvent accéder que très, très difficilement pour leur apporter de l'aide. Il y a à peu près autant de personnes qui sont bloquées à la frontière syro-turque, pareil, parce que la Turquie aussi a décidé de fermer, un peu moins hermétiquement, mais de fermer quasiment sa frontière. Au Liban, les Syriens peuvent passer. Autrefois, ils passaient sans visa, et maintenant, ils peuvent passer avec un visa. Mais donc, du coup, seuls passent régulièrement les commerçants, les étudiants, quelques catégories de gens qui ont un statut professionnel et économique défini pour les Libanais, ou qui ont un billet d'avion et qui veulent partir parce qu'ils partent à partir de l'aéroport de Beyrouth. Donc, c'est aussi extrêmement difficile de passer au Liban. Maintenant, la frontière est un peu plus poreuse au Liban que en particulier pour la Jordanie. Je terminerai là-dessus. Maintenant, comment dans ces trois pays vivent et quelle est la situation de ces réfugiés? Alors, ça pose la question du droit au travail. Donc, j'ai dit que maintenant, en Turquie, relativement aux autres pays, leur situation est un peu meilleure puisqu'ils ont le droit de travailler. Mais encore une fois, pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous des statuts réguliers et qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, puisque il y a une pression du marché du travail et que souvent, ils travaillent quand même sans être déclarés et avec une protection limitée. Par ailleurs, il s'est développé de manière très massive un travail des enfants. Le travail des enfants, les ateliers de confection en particulier, que ce soit à Gaziantep ou à Istanbul, il y a des milliers d'enfants qui travaillent dans ces ateliers. Et donc des enfants non scolarisés. Donc, le deuxième grand problème, c'est le problème de la scolarisation des enfants. Donc, vous imaginez ce que ça représente, ces millions de gens dont une très forte proportion sont des familles avec des enfants de tous les âges. Comment ces enfants peuvent-ils être accueillis dans le système scolaire turc ou libanais ou jordanien? Étant donné leur nombre, ça veut dire ouvrir des classes, ça veut dire former des enseignants, et ça veut dire aussi, dans le cas turc, ça pose le problème de la langue, enfin, comme chez nous d'une certaine manière. Les Syriens se sont beaucoup organisés en réseau associatif et créent des écoles. Officiellement, la Jordanie et le Liban accueillent ces enfants réfugiés dans les écoles officielles du pays, avec du coup des aides étrangères et des aides des organisations et des ONG et des organisations d'aide au développement et de l'UNESCO et de l'UNICEF. Il n'en reste pas moins que c'est un problème absolument massif et qu'une grande partie de ces enfants sont non scolarisés. On estime à un maximum de 50% d'enfants scolarisés parmi les enfants réfugiés, avec donc aussi donc le problème du travail des enfants, enfin, et tous les problèmes sociaux sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Je conclurai juste pour dire que ces réfugiés se trouvent aussi pris dans des enjeux politiques locaux, en Turquie en particulier. Aujourd'hui, alors, le président Erdogan a ouvert officiellement la possibilité de se naturaliser, de la naturalisation pour les Syriens. Il faut se rappeler que le premier problème du régime turc aujourd'hui, c'est les Kurdes, et que donc les réfugiés syriens se trouvent pris en étau, en fait, dans le conflit entre le régime turc et les Kurdes, et que l'opposition turque accuse le régime de vouloir instrumentaliser les Syriens dans leur conflit. Donc voilà, on peut se demander comment ces pays arrivent dans la réalité et comment la société, en fait, gère cet afflux de réfugiés. La réponse, pour dire les choses très très rapidement, c'est précisément parce que les États, par choix politique ou par incapacité, parfois les deux à la fois, ne peuvent pas gérer cette masse de réfugiés. Donc c'est la société. Mais c'est aussi parce que ce sont des pays, même si la situation est un peu meilleure en Turquie que dans les deux autres, où les droits sociaux n'existent pas ou sont très faibles, une très faible partie de la population elle-même bénéficie du droit du travail, de la protection sociale, et donc c'est une vague de migrants, de réfugiés de plus, qui vient grossir les masses de travailleurs non protégés et de populations non protégées. Donc ça creuse les inégalités sociales et ça aggrave les difficultés sociales et économiques. Alors vous imaginez les politiques publiques aussi, la question de l'eau, la question de l'aménagement du territoire, etc., tous les problèmes que ça peut poser. Voilà, merci.
Donc moi je vais commencer également par vous citer quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 250 millions de migrants dans le monde, de gens déplacés qui ont quitté leur pays. Et ça représente à peu près 3% de la population mondiale. Et parmi ces 250 millions de migrants, il y a 10% de réfugiés. Donc 0,3% de la population mondiale. Les réfugiés et demandeurs d'asile, ce sont des gens qui ont le droit à une protection internationale parce que dans leur propre pays, ils subissent des atrocités, ils sont martyrisés du fait de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur orientation sexuelle ou de leur appartenance à des minorités ethniques et autres. Et donc ces gens-là, ils ont droit à une protection internationale. Et le texte fondateur qui encadre cette protection internationale, c'est la Convention de Genève, qui a été repris dans différents autres textes, des textes bilatéraux, des textes régionaux, des textes de constitution tels que la Constitution française. Mais le texte fondateur, c'est la Convention de Genève. Et la Convention de Genève donne droit... Enfin, le fait qu'un pays signe et ratifie la Convention de Genève, et c'est le cas de 145 pays sur 193, ça veut dire que ce pays s'engage à offrir une protection à une personne qui est martyrisée dans son propre pays. C'est ce qu'on appelle le droit d'asile. Et nous, à Amnesty, on est très, très, très sourcilleux sur ce droit d'asile parce que on considère que c'est le dernier des droits fondamentaux qui reste quand tous les autres ont été bafoués. Donc, le statut de réfugié, l'octroi du statut de réfugié, le droit d'asile, ce n'est pas une question de politique migratoire ou de compassion, de générosité, ou etc., etc. C'est un droit qu'on s'est engagé à donner aux gens qui sont martyrisés dans leur propre pays. Qu'est-ce qu'on constate également ? C'est que 86% des réfugiés sont aujourd'hui accueillis dans un pays, le pays le plus proche du leur, dans un pays donc en voie de développement sur le plan économique. Et je recite un peu les exemples que mentionnait Elisabeth, c'est que si on prend l'exemple de la Syrie, 95% des réfugiés de Syrie sont en Turquie, en Liban, en Jordanie ou en Irak. Donc ce sont les pays, les réfugiés somaliens vont où ? Ils vont au Kenya. Hein ? Les réfugiés afghans, ils vont en Iran ou au Pakistan. 86%, ça ce chiffre est très important, 86% des réfugiés vont dans des pays en voie de développement sur le plan économique. Je vais citer quelques chiffres. Aujourd'hui, un Libanais sur 5 est un réfugié de Syrie. Un Jordanien sur 10 est un réfugié de Syrie. Et en Europe, les 1 million de réfugiés qui sont arrivés sur le territoire de l'Union européenne en 2015 représentent 0,2% de la population européenne. Donc on voit bien le déséquilibre fondamental qu'il y a dans le partage du poids de cette crise des réfugiés. Nous, ce qu'on constate, le constat que nous faisons à Amnesty International, c'est que finalement cette crise, qui est la plus grande crise des réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas tellement dû au nombre de réfugiés. 0,30% de la population mondiale, c'est pas non plus des flux énormes. Simplement, cette crise est due à l'impréparation, au manque d'anticipation et surtout au manque de répartition de la responsabilité de cette crise, notamment parmi les pays les plus riches. Et donc les 6 propositions que nous faisons, sont destinés, qu'on communique donc au gouvernement, qu'on communique à l'ONU, c'est ce qu'on appelle le partage des responsabilités. Et nous faisons 6 propositions. La première a lieu à trait à la réinstallation. Alors c'est quoi la réinstallation ? La réinstallation concerne les personnes réfugiées les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes isolées, les mineurs isolés, les gens qui sont malades, les gens qui sont handicapés, les gens qui ont subi des traumatismes suite à la torture ou à des viols. Et donc le HCR sélectionne dans les camps ou dans les pays, en Turquie, au Liban, en Jordanie, etc., sélectionne les besoins qui sont considérés comme étant plus vulnérables. Et 1,2 million de personnes sont considérées aujourd'hui par le HCR comme étant vulnérables. Aujourd'hui, 30 pays et seulement 30 pays offrent 100 000 places de réinstallation, c'est-à-dire d'accueil des réfugiés les plus vulnérables sur leur propre territoire. 1,2 million de gens en situation de vulnérabilité, 100 000 places offertes par 30 pays. Les États-Unis, c'est 50%, mais également l'Allemagne, la France propose 3 375 places, hein, par rapport au 1,2 million, vous voyez la disproportion. Donc nous, ce que nous demandons que tous les pays du monde s'engagent à recevoir un certain nombre de gens parmi les plus vulnérables et que ces places d'accueil, qu'il y ait des quotas qui soient établis par la communauté internationale, qui se basent sur des faits, la population, le nombre de réfugiés déjà présents sur le territoire, le taux de chômage, le PIB, le PNB, enfin disons sur des critères factuels pour que la communauté internationale dise eh bien tel et tel pays peut, a les capacités d'accueillir tant de réfugiés au titre de la réinstallation et tel pays pour en accueillir tel autre. On ne laisse pas ça finalement aux pays volontaires qui veulent bien accueillir un certain nombre de gens les plus vulnérables, mais que ça soit organisé, que ça soit anticipé et que ça soit contraignant pour les pays qui auront signé cet accord. La deuxième chose que nous voudrions vouloir mettre en place, c'est la mise en place qu'on appelle des voies légales et sûres d'immigration. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin d'une protection internationale ne soit pas amenée à tomber entre les mains des passeurs ou des trafiquants d'êtres humains pour faire valoir son droit, ce qui encore une fois est un droit international, à faire valoir son droit, prendre des risques inconsidérés, se faire torturer, se faire exploiter, etc., tout au long du voyage, que cette personne, à partir du pays d'origine, de son pays d'origine ou des pays limitrophes, puisse faire valoir ses droits dans les pays de l'Union européenne, par exemple, par des voies sûres et légales. Et ces voies sûres et légales, c'est le regroupement familial, c'est-à-dire qu'une personne qui a le statut de réfugié aujourd'hui sur le territoire de l'Union européenne puisse faire venir les membres de sa famille qui sont restés au pays. Ça, c'est un exemple de voie sûre et légale. Et un deuxième exemple, c'est la délivrance de visas humanitaires ou asile ou étudiants ou tout ce qu'on peut imaginer, mais que la personne puisse venir en France ou en Allemagne ou en Suède pour faire son dépôt de demande d'asile sans tomber dans les mains des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Ça, cette deuxième proposition, c'est donc le développement des voies légales et sûres. La troisième proposition que nous faisons, c'est un nouveau mécanisme qu'on appelle le transfert de réfugiés. C'est-à-dire qu'en cas de crise grave de réfugiés, telle qu'on peut le connaître en Syrie depuis 3 ou 4 ans, c'est également d'établir des quotas par pays, toujours en fonction du PNB, du PIB, du taux de chômage, etc., etc., pour qu'on puisse, la communauté internationale, se partage la responsabilité de cette crise humanitaire, de cette crise des réfugiés, sur des faits, sur des chiffres, sur des choses incontestables. C'est-à-dire qu'on ne soit pas un petit peu démuni face aux gens qui arrivent, qu'on ne sache pas très bien comment faire, etc., mais que ça soit organisé et que tous les pays de la communauté internationale supportent à due proportion de leur richesse ces réfugiés. La quatrième proposition que nous faisons, c'est à trait au financement. Aujourd'hui, le HCR fait des appels de fonds auprès des pays de la communauté internationale, et il se trouve que les pays s'engagent à verser des fonds, mais qu'en réalité ils en versent 17% pour le Yémen, 30% pour le Burundi, 57% pour le Liban et 57% pour les gens qui sont dans le plus vieux camp du monde de Dadaab. Donc on est loin, les pays s'engagent à verser des sommes mais ne les versent pas. Le résultat, si on peut dire, c'est que, par exemple, un réfugié aujourd'hui au Liban, reçoit 66 centimes par jour et par personne d'aide de la part de la communauté internationale. Pour rappel, $1 par jour, c'est le seuil de très grande pauvreté. Et encore, sur une mission qu'avait fait Amnesty donc au Liban, un quart des personnes n'avaient pas reçu cette aide depuis 2015. Donc on voit que les pays donateurs sont loin de respecter leurs propres engagements sur le plan financier. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que les pays qui s'engagent, ils versent l'argent. Deuxièmement, qu'on augmente les quotas pour aider les pays qui sont en première ligne. Les pays qui sont en première ligne, c'est le Liban, c'est la Jordanie, c'est la Turquie. Comment voulez-vous que les structures du Liban puissent accueillir un cinquième de sa population en plus? Mais c'est absolument impossible sans l'aide financière des pays de l'Union européenne et de la communauté internationale. Mais l'argent versé ne doit pas affranchir ces pays de respecter leurs propres engagements, leurs propres responsabilités sur l'accueil des réfugiés. Ainsi, l'Australie verse de l'argent, mais ce n'est pas ça qui doit l'empêcher d'accueillir des gens, des réfugiés. Et c'est pas parce qu'elle verse de l'argent qu'elle doit, envoyer les réfugiés qui tentent d'arriver en Australie dans des îles de Nouvelle-Papouasie. C'est pas parce que les pays de l'Union européenne versent de l'argent qu'elle ne doit refuser d'accueillir sur son territoire des réfugiés. Et c'est tout à fait le cas, c'est le cas depuis mars 2016, avec ce sinistre accord UE-Turquie, où tous les gens qui viennent sur le territoire, qui tentent de venir sur le territoire de l'Union européenne par la Turquie et la Grèce, sont renvoyés en Turquie, en contrepartie de 3 milliards qui sont versés par l'Union européenne à la Turquie. Donc ça, nous disons non. On verse de l'argent, on aide les pays qui sont en première ligne, mais ça ne nous affranchit pas de recevoir sur notre territoire, d'une part, et d'abord, les réfugiés les plus vulnérables, et d'autre part, prendre notre poids à due proportion de nos résultats économiques de la population réfugiée dans le monde. Le cinquième point, donc, c'est un renforcement de la détermination du statut de réfugié. On sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir le statut de réfugié. En France, le taux d'octroi, je crois, est de 40-45% ces dernières années. Et c'est très compliqué. Il faut monter un dossier. C'est très compliqué d'obtenir le statut de réfugié. Et en cas de flux massif, de crise profonde de réfugiés, nous demandons qu'il y ait des octrois de réfugiés à un groupe de personnes. Par exemple, d'accorder, c'est ce qu'on appelle le prima facie, c'est-à-dire d'accorder le statut de réfugié à tous les yézidis qui sont aujourd'hui en Irak ou en Syrie et qui subissent des atrocités épouvantables. C'est-à-dire accorder le statut de réfugié à un groupe de personnes alors qu'aujourd'hui on l'accorde après une attention, après un examen de la situation personnelle, personne par personne. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est d'accorder le statut de réfugié de prime abord à un ensemble de personnes qui subissent des atrocités dans leur propre pays. Et enfin, ce que nous souhaitons, c'est pour ça que nous militons à Amnesty, c'est que tous les pays, d'abord, mettent en place des systèmes asile qui permettent un certain nombre de garanties pour le réfugié, des garanties juridiques et des garanties de la vie de tous les jours, si on peut dire. Les garanties juridiques, c'est de garantir que toute personne qui a besoin de protection puisse venir sur le territoire pour faire valoir ses droits à une protection internationale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y ait des garanties réelles de non-refoulement de ces gens dans leur pays d'origine. On sait, par exemple, que la Turquie n'offre pas ce type de garantie puisqu'il y a des refoulements de Syriens en Syrie ou des refoulements d'Afghans en Afghanistan au mépris de ce sacro-saint principe qui est même au-delà, qui va au-delà de la Convention de Genève, qui est le principe de non-refoulement par lequel aucun pays ne doit renvoyer des réfugiés, ne doit renvoyer des personnes dans un pays où elles risquent pour leur vie ou la torture ou les mauvais traitements, etc. Donc ça, c'est des garanties juridiques. Et ensuite, il faut que tous les pays puissent donner des conditions de vie décentes et dignes aux réfugiés, c'est-à-dire le droit au travail, le droit à l'éducation pour les enfants, le droit au système de santé et le droit à une vie, à un hébergement et à la nourriture. Et on sait que dans un certain nombre de cas, ce n'est pas le cas, notamment dans les pays du pourtour de la Syrie. Donc 6 propositions qui tournent toutes autour du partage des responsabilités. En clair, il faut que les pays les plus riches participent à cet effort, participent à la résolution de cette crise, qui est la plus grave crise, encore une fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la crise des réfugiés. Voilà, merci.
Merci à vous deux pour ces chiffres éloquents. La parole est à vous dans la salle si vous souhaitez des précisions, faire des témoignages.
Bonjour, j'ai bien aimé votre intervention à tous les deux, je vous en remercie. Ma première question, elle serait, vous faites du plaidoyer, donc Amnesty ou comme Confluence Méditerranéenne. Qui ferait respecter ces résolutions que vous prendriez ou vous demandez à ce qu'elles soient respectées, à ce qu'elles soient mises en place, sachant très bien que les États qui sont membres de l'ONU et qui ont fait signer cette convention de Genève ne respectent même pas leur engagement au sein de cet organisme-là, qu'est l'ONU. Comment faire respecter ces résolutions que vous prendriez là ? Quelle instance serait à même, s'il devait en être créé une autre, comment on y arrive, quoi ?
Aujourd'hui, l'instance internationale qui s'occupe des réfugiés, c'est le HCR, hein, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Mais en droit international, il n'y a pas d'armée mondiale ou de police mondiale qui a les attributions pour faire respecter des engagements ou des traités internationaux sur le plan mondial. Donc c'est vrai que typiquement, et vous avez tout à fait raison de le souligner, tous les pays de l'Union européenne ont signé la Convention de Genève et tous les pays de l'Union européenne ont validé l'accord UE-Turquie qui fait qu'on refoule des gens en Turquie, un pays qui n'est même pas sûr pour les réfugiés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à part l'opinion publique, à part nous d'aller voir nos députés, nous d'aller voir nos maires, pour faire pression sur le gouvernement, pour qu'on respecte nos engagements internationaux et on respecte nos valeurs, parce que le droit d'asile, c'est quand même l'une de nos valeurs fondamentales dans les pays occidentaux, on n'a pas vraiment de moyens. C'est vraiment l'opinion publique, c'est faire du plaidoyer, c'est faire du lobbying sur nos politiques pour qu'on respecte. Et puis c'est casser ces discours qu'on entend de partout, réfugiés égale terroriste, réfugié égale violeur, réfugié, etc., etc. Donc c'est vraiment, on n'attend rien, on ne peut rien attendre des pouvoirs publics. Au contraire, hein, les partis politiques, on voit au cours de cette campagne électorale, les partis politiques se réfugient, se cachent derrière leurs petits doigts, ils parlent le minimum des réfugiés. Donc c'est vraiment à l'opinion publique de faire le nécessaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il n'y a pas de police internationale, quoi.
La suite de la question viendrait du fait comment, sur un événement comme l'arrivée de... j'ai perdu son nom, le président américain, là.
Trump.
Qui veut se désengager de l'ONU, qui veut se désengager des communautés internationales. Comment on fait pour faire respecter ces engagements qui ont été pris il y a des dizaines et des dizaines d'années pour suite à ces changements politiques et à ces revirements de situation, quoi.
Bah, encore une fois, c'est l'opinion publique américaine qui peut faire pression, mais on n'a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de solution. Hein. Enfin, si Trump décide de construire un mur à la frontière mexicaine, à moins de déclarer la guerre aux États-Unis, mais c'est inenvisageable. À part l'opinion publique américaine, je pense qu'on n'a pas vraiment de moyens.
Mais même avec le plaidoyer sur certaines actions, là je change de sujet, je suis désolé, mais même avec le plaidoyer qu'on fait sur les bombardements des hôpitaux d'MSF en Syrie qui interviennent, même avec les choses comme ça, il y a encore des actions qui sont menées militaires qui sont indignes.
Ben, on est bien d'accord, on est bien d'accord.
Donc pourquoi ne serait pas créée une police comme Frontex par exemple ? Pourquoi il n'y aurait pas une police qui ferait respecter ces engagements qui ont été pris.
Mais c'est très compliqué.
Style la Cour de pénale internationale, la Cour de internationale de justice. Pourquoi ne pourrait pas ces deux cours ne pourraient pas prendre des obligations envers ces États.
La Cour pénale internationale est une juridiction qui juge selon trois critères, hein, selon trois infractions terribles. Hein, c'est les crimes de guerre, c'est les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Donc, soit c'est les législations du pays qui jugent leurs anciens dirigeants, soit en cas de défaillance de ces pays, c'est la Cour pénale internationale qui peut se saisir elle-même pour juger les... Mais c'est qu'une juridiction.
Il faut que le pays ait adhéré, en plus.
Et puis, il faut que le pays ait adhéré, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais, il n'y a pas de... Solution, si vous voulez. Enfin, le lobbying, c'est très important. On arrive à faire bouger les lignes. C'est très important, le lobbying. La nouvelle loi asile en France, qui est entrée en vigueur en septembre 2015, c'est vraiment... On peut dire qu'il y a eu beaucoup, un énorme travail fait de la part des ONG. Il y a eu des améliorations. On n'a pas obtenu gain de cause sur tout, mais il y a eu des améliorations. Donc, le plaidoyer, c'est très important. L'opinion publique, c'est très important. Alerter nos politiques, alerter nos parlementaires, c'est leur job. Et on le fait pas assez. C'est vraiment ça qui doit nous permettre de faire bouger les lignes. Mais il faut pas croire que du jour au lendemain, on va créer une police internationale qui va permettre à ceux qui respectent pas leurs engagements internationaux de le faire. Regardons la crise syrienne, par exemple. La communauté internationale n'arrive pas à se mettre d'accord avec le droit de veto de la Russie et de la Chine, n'arrive pas à se mettre d'accord sur une solution pérenne en Syrie. C'est un des exemples, mais il y en a plein. Non, mais
tout ça, c'est une question de rapport de force international. Faut pas se faire d'illusions. Moi, j'ai juste envie de rajouter, si vous me permettez. Moi, je pense que effectivement, tout ce qu'a dit Jean-Claude Samouillet est très très important. Mais aussi, moi, j'ai envie d'ajouter l'action des associations et des ONG, enfin des associations sur le terrain. Et aux États-Unis, mine de rien, il y en a aussi. Je dirais, tous les gens qui travaillent pour l'accueil des migrants, ils contribuent aussi, chacun à son échelle, mais je veux dire, à essayer de faire bouger le rapport de force. Mais c'est une question de rapport de force politique. Hein.
Amnesty, par exemple, Amnesty USA se mobilise contre le mur actuellement, hein, contre la législation anti-migrants. Mais effectivement, c'est. Nous, citoyens, soit individuellement, soit à l'intérieur de collectifs ou d'associations, nous avons un rôle majeur à jouer pour que les choses s'améliorent. D'autres questions, peut-être ?
En réaction à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, sans parler de la lâcheté des pays de l'Union européenne à pas accueillir ces personnes-là, mais plutôt à les renvoyer en Turquie contre une compensation financière, est-ce qu'on a un retour de ce qui se passe là-bas quand ces personnes retournent en Turquie, sachant que c'est un pays qui accueille déjà d'autres personnes en provenance d'autres pays, et en plus qui reçoit ces personnes en provenance de l'Union européenne contre une compensation financière? Est-ce qu'il y a un suivi quand même de cette compensation financière qui est faite?
Alors, j'ai très mal compris votre question. C'était sur la situation en Grèce, non, c'est ça?
Non, en Turquie, de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie.
Est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent?
Alors, au jour d'aujourd'hui, un an après, pratiquement jour pour jour, enfin, il y a vraiment, l'accord Turquie, c'était le 18 mars 2016, il y a eu très peu de gens qui ont été renvoyés en Turquie, en fait. Hein, très peu. Il y en a eu le lendemain ou le surlendemain de la signature de l'accord. Il y en a eu dernièrement. Mais c'est peut-être moins de 1000 en tout cas. Hein. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le drame, finalement, qui est engendré par cet accord UE-Turquie, c'est que les services grecs n'ont pas suffisamment de moyens pour analyser la situation de chaque personne avant de la renvoyer en Turquie. Et la conséquence de cette carence, si vous voulez, et la carence grecque, mais la carence des États de l'Union européenne qui n'aident pas la Grèce non plus à faire le travail, c'est qu'il y a à peu près 70 000 personnes qui aujourd'hui vivent dans des conditions effroyables sur les îles grecques. Dans la situation sous la neige, dans des conditions de froid extrême, il y a des enfants qui vivent sous la tente, etc. Il y a 70 000 personnes qui sont bloquées aujourd'hui sur les îles grecques. Et nous demandons, enfin plein d'ONG, pas qu'Amnesty, il y a plein d'ONG qui demandent, il faut rapatrier ces gens des îles grecques en Grèce continentale, et après que les pays de l'Union européenne relocalisent les gens sur leur propre territoire. Voilà la situation aujourd'hui, la conséquence désastreuse de la signature de l'accord UE-Turquie aujourd'hui. Donc il y a finalement, les chiffres, il y a assez peu de gens qui ont été refoulés en Turquie. Par contre, il y a énormément de gens qui sont bloqués en Grèce dans des conditions effroyables. Et à cela s'ajoute, aux conditions météorologiques, s'ajoutent des actes racistes, des actes de violence à l'égard des réfugiés sur les îles de la population. Voilà. Donc c'est la situation actuelle.
Mais il nous reste à vous remercier une nouvelle fois pour cette intervention.
Et puis il y a des pétitions. Il y a une pétition pour le camp de Dadaab. Le camp de Dadaab, c'est le plus vieux camp de réfugiés au monde. Ce sont des réfugiés somaliens qui sont dans un camp au Kenya. Et le Kenya qui n'a pas, donc comme je le disais tout à l'heure, seuls 57% des fonds de la communauté internationale ont été versés au Kenya pour aider ce pays à gérer ce camp. Le Kenya menace de fermer ce camp en mai 2017. Donc nous faisons pression auprès du gouvernement kenyan pour que ce camp ne soit pas fermé. Et nous faisons également pression auprès de nos gouvernements pour que des fonds soient versés, de façon à ce que les gens puissent vivre de façon digne dans ce camp. Et puis, il y a des cartes postales, si vous voulez les renseigner en mettant un petit message, de soutien à des femmes yézidis, hein, ces cinq sœurs yézidis, qui on connaît les atrocités qu'elles ont subies. Elles sont parvenues en Grèce. Elles sont bloquées en Grèce, enfin 4 sur 5, 4 d'entre elles sont bloquées en Grèce. Et nous, vous, si vous le souhaitez, envoyez via Amnesty International, on leur envoie un petit message de soutien, une carte postale de soutien, pour leur dire qu'elles sont pas, qu'il y a des gens qui pensent à elles et qui font pression auprès de leur gouvernement pour que leur situation s'arrange. Alors si vous voulez bien nous aider, ben ça serait, on vous en remercie par avance. Merci.